Bonsoir Tara Stegel.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Joli cafouillage autour de la manifestation qui, interdite ce matin, était finalement autorisée à 13h tout à l'heure. Manifestation demain, mini-parcours autour du bassin de l'Arsenal. Sur 1,6 km, le cortège se déplacera bien. Nous tenterons de comprendre la volte-face du gouvernement avec Stéphane Robert qui revient de l'Assemblée nationale et avec Violette Voldoir qui était chez les syndicats. Ainsi qu'avec notre invitée, la députée socialiste Valérie Rabault qui est rapporteure générale de la Commission des Finances. Dans cette édition, nous prendrons également des nouvelles du Brexit à J-1. Nous reviendrons avec Catherine Dutu sur la question de l'immigration, l'un des thèmes clés du référendum qui sera organisé demain outre-Manche. Du grain à moudre à 18h20 avec vous Hervé Gardette.
Traité TISA qui profitera la libéralisation des services. Ils seront 4 invités ce soir pour en discuter.
A tout à l'heure. Finalement, le droit constitutionnel de manifester sera bien respecté par le gouvernement socialiste. Mais la manifestation de demain a bien failli être interdite à Paris. Cela ne s'était pas produit en France depuis les années noires de la guerre d'Algérie. Comme le rappelait par exemple Michel Pigenet, l'historien des mouvements sociaux qui était invité dans le journal de midi et demi. Eh bien, de 1953 à 1968, les défilés du 1er mai ont été systématiquement statiques. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui donc, on a assisté à une belle volte-face du gouvernement. On va en parler dans un instant avec notre invitée, la députée socialiste Valérie Rabault. Mais on revient d'abord sur cette matinée de cafouillage avec vous. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Tara.
Ce matin à 9h, la préfecture de police de Paris a sifflé la fin du suspense qui durait depuis 8 jours. Elle annonce qu'il n'y aura pas de manifestation demain dans la capitale. Tollé général, les syndicats montent au créneau, exigent d'être reçus par François Hollande. Finalement, c'est Bernard Cazeneuve qui les voit au ministère de l'Intérieur. Et juste avant 13h, à l'issue de cette rencontre, eh bien, l'exécutif autorise finalement une mini-manifestation sur un parcours, je le disais, d'1,6 km autour de la Bastille. Voilà pour le film des événements, Stéphane, avec cette question évidemment, comment expliquer ce revirement si rapide du gouvernement?
Alors, si vous n'y comprenez pas grand-chose, Tara, rassurez-vous, les députés à l'Assemblée nationale sont, eux, complètement déboussolés. À gauche, vous avez par exemple le socialiste Philippe Doucet qui estime que le gouvernement a bien géré cette affaire.
C'est un bon compromis. On autorise la manifestation et en même temps, on l'a fait de manière sécurisée. Oui, puisque du coup, on obtient le fait qu'elle soit semi-statique, ou semi-tiante, comme vous voulez.
Et puis d'autres, comme Alexis Bachelet, toujours au PS, qui vous explique qu'on a fait là à peu près n'importe quoi.
Les Français sont également attachés aux libertés. Donc un gouvernement qui va se mettre en travers de la liberté du peuple, il sera amené à reculer, comme le gouvernement a reculé ce matin. C'est aussi simple que ça.
Et c'est la même confusion à droite. Écoutez le député Les Républicains, Daniel Fasquel.
Malheureusement, on est dans l'improvisation, le cafouillage et l'amateurisme.
Et toujours chez les Républicains, Philippe Gosselin.
Une fois n'est pas coutume, je trouve que la négociation menée par le gouvernement n'est pas si mauvaise.
Bref, c'est le cafouillage le plus total. Alors pour y comprendre quelque chose, tournons-nous vers les centristes. En l'occurrence, Charles Amédée du Buisson de Courson qui nous résume parfaitement la situation.
En fait, la stratégie elle est très simple. C'est le zigzag permanent de façon à gagner la fin de la semaine, puisque chacun sait qu'à partir de fin juin, les Français en juillet et en août, hein, ils prennent leurs vacances et ils n'ont plus la tête à manifester. C'est pas plus compliqué que ça.
Au bout du compte, on peut voir là dans cette affaire loi travail une illustration de ce qu'on appelle en politique le théorème Pasqua et qui s'énonce en ces termes. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien.
Merci, si j'ose dire, Stéphane Robert. Alors nous sommes donc avec Valérie Rabault qui se trouve dans sa circonscription à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste, vous êtes rapporteur, je le disais, rapporteur général de la Commission des Finances. Et ce matin sur Twitter, c'est le dernier endroit où l'on parle, eh bien vous avez réagi madame en disant « Pas acceptable en démocratie d'interdire une manifestation, solution toujours possible pour la sécuriser ». Vous devez donc, j'imagine, être satisfaite ce soir de voir qu'il y aura une manifestation. Demain.
Mais je ne suis pas satisfaite de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que la démocratie n'est pas géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des principes et le principe de pouvoir manifester est inscrit dans notre constitution et donc il doit pouvoir s'appliquer. Et je regrette le cafouillage. Moi, j'ai entendu les témoignages que vous avez cités. Je fais plutôt partie de ceux et de celles qui pensent qu'il y a eu cafouillage aujourd'hui, qu'il faut. Quand on est à la fois en responsabilité, quand on est aussi au gouvernement, il faut respecter les principes de notre démocratie parce qu'encore une fois, elle n'est pas à géométrie variable.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu du tirage au sein du gouvernement? C'est l'une des hypothèses. Manuel Valls voulant se montrer inflexible et peut-être François Hollande ne pas apparaître comme liberticide.
Alors, je n'ai aucune confidence, donc je n'en sais rien. J'imagine qu'il y a dû y avoir des discussions assez serrées pour qu'on en arrive à ce revirement de situation. Mais je n'ai aucun scoop à vous délivrer, aucun scoop pour les auditeurs de France Culture, je le regrette.
Valérie Rabault, je vous propose d'entendre maintenant les premiers concernés, à savoir les syndicats, qui négocient cet après-midi encore avec la préfecture les dernières modalités. La manifestation tournera demain, si on peut dire, autour du bassin de l'Arsenal. L'objectif étant bien sûr d'éviter les violences qui ont émaillé le parcours de mardi 14 juin, il y a donc 8 jours. Les organisations se sont battues jusqu'au bout pour pouvoir marcher et non pas rester juste debout. La CGT et FO parlaient tout à l'heure d'une victoire pour la démocratie, entre guillemets. Bonsoir Violette Voldoir.
Bonsoir Tara.
Il serait peut-être plus exact de dire une demi-victoire.
Oui, car les syndicats n'ont obtenu qu'un kilomètre et demi de parcours, à peine une demi-heure de marche au départ de Bastille et qui arrivera à Bastille. Mais pour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, pas question d'admettre qu'il pourrait bien s'agir en fait d'un rassemblement déguisé en manifestation.
Non, statique, ça veut dire on est à un endroit et on bouge pas. Ou on fait comme les flamants roses, on lève une jambe. Là, non, c'est bien une manifestation sur un kilomètre, on va bien manifester. Et nous, nous tenions à manifester et à marcher. Bon, vu les chiffres de la police, on risque pas d'être nombreux, donc ça devrait passer.
La CGT et FO ont également obtenu ce matin la permission de manifester le 28 juin prochain, jour du vote solennel de la loi travail au Sénat. FO et la CGT veulent maintenant discuter du fond, tout comme les organisations de jeunesse comme l'UNEF. Martin Bontemps, son vice-président.
Je pense qu'il faut différencier ce qui relève du débat de la loi travail de ce qui relève de l'autorisation à manifester. Là aujourd'hui, on a un gouvernement qui a essayé d'instrumentaliser les violences pour couper le débat sur la loi travail. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, manifester, c'est maintenir ouvert ce débat-là et qu'on doit poursuivre là-dedans. Et donc plutôt que de discuter de maintien de l'ordre, etc., discutons du fond de ce projet de loi et de ce qui pose problème dedans. Et ça fait 4 mois qu'aujourd'hui, on le répète. Depuis le 20 mai dernier, on a envoyé une lettre à François Hollande pour être reçu sur la question de la loi travail. Et pour le moment, on n'a aucune réponse.
Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly non plus. Ils ont demandé tout à l'heure à être reçus le plus rapidement possible par François Hollande pour trouver une issue à ce conflit. Le plus long que j'ai jamais connu, a soupiré tout à l'heure le secrétaire général de Force Ouvrière.
Merci beaucoup Violette Voldoir. Valérie Rabault, vous n'aviez pas de scoop tout à l'heure sur qui a décidé d'interdire et puis d'accepter la manifestation. Pas de scoop, j'imagine, non plus sur la réouverture des négociations entre le gouvernement et les syndicats sur le fond du problème, parce que c'est quand même de la loi travail qu'il s'agit. Faut-il, d'après vous, rouvrir, par exemple, l'article 2 autour de cette loi travail et tout simplement les discussions?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut absolument, lorsque le texte va arriver à l'Assemblée nationale le 30 juin prochain, qu'il puisse y avoir un vrai débat parlementaire. Je rappelle que quand on a eu le texte à l'Assemblée nationale, il faisait 52 articles et on en a débattu d'un seul. Et encore, on n'a pas pu voter. C'était à cause du 49-3, mais à cause du moment aussi où il a été déclenché. Il a été déclenché très tôt. Et donc, moi, je formule le vœu et la demande que on puisse avoir un vrai débat à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Pour examiner au moins tous les amendements auxquels les socialistes ont travaillé. Un tout dernier mot, j'ajoute que...
Tous les amendements et tous les articles aussi.
Oui, j'ajoute que 8 organisations, dont la CGT, demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements du maintien de l'ordre et les choix du ministère de l'Intérieur lors des manifestations, de l'ensemble des manifestations contre la loi travail. Qu'en pensez-vous?
Non, mais moi, je n'y suis pas favorable. Je constate, et il y a eu de vraies violences, notamment contre l'hôpital Necker à Paris la semaine dernière. Je souhaiterais que tout le monde les condamne. Tout le monde les condamne, c'est inadmissible de s'attaquer à un hôpital de cette façon-là, de manière générale de s'attaquer à des bâtiments, mais encore plus, c'est encore plus symbolique quand on s'attaque à un hôpital. Donc ce que je souhaite, c'est que maintenant on se concentre sur le texte de la loi travail qui va arriver en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et que de part et d'autre, on ait l'opportunité d'en débattre. La démocratie, elle repose aussi sur ce qui se passe au Parlement. C'est nous qui votons et je pense qu'il est important, mais vraiment essentiel, qu'on puisse avoir ce débat, enfin.
Valérie Rabault, vous restez avec nous parce que vous êtes aussi présidente du groupe d'amitié franco-britannique à l'Assemblée nationale et qu'on va parler dans un instant du Brexit. Mais d'abord, le coup de la grève à la SNCF qui s'est greffé cette grève justement aux protestations contre la loi travail. Coût estimé aujourd'hui par la direction du rail. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Tara.
Guillaume Pépi, le président de la SNCF, parle de 250 millions d'euros.
Oui, à quoi se réfère le PDG de la SNCF pour évaluer le coût d'une grève qui s'est déroulée sur plusieurs semaines? Un coût qu'il estime autour d'une vingtaine de millions d'euros par jour. Comment donc? Eh bien, pas seulement en se référant au trafic passager, mais aussi au fret, à la marchandise. Cela représenterait quelques 190 millions sous forme de perte de revenus à cause d'une circulation moindre des trains, moins de billets délivrés, auxquels il faudrait ajouter une perte de 60 millions en raison de péages non perçus. Mais cela, c'est l'estimation basse. À cette somme, il faudrait ajouter quelques dizaines de millions dans les prochains mois sous l'effet de réclamations de la clientèle. 20 000 demandes qui ont déjà été enregistrées. Elles vont grossir ces réclamations, englobant la demande de prise en charge de nuits d'hôtel. Réclamations attendues également pour des dizaines de milliers d'abonnés qui auront droit à des remboursements. Au-delà, il faudra aussi comptabiliser les pertes issues d'une désaffection possible de certains clients du rail. En tout cas, c'est à voir. Des chiffres en tout cas assez proches des précédents, ceux de la grève de 2014, de juin 2014. Grève qui a duré 15 jours. Moins donc que les grèves de juin 2016, mais qui ont été plus suivies. Ce qui semble certain en tout cas, c'est que la SNCF risque de perdre une partie des bénéfices escomptés sur l'année en cours. La SNCF qui s'en trouvera forcément retardée également dans ses efforts d'économie.
L'un après l'autre, ils se mettent à parler. À J-1, les Européens tremblent devant l'issue du référendum organisé demain outre-Manche. L'Allemande Angela Merkel souhaite évidemment, dit-elle, que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. Le Français François Hollande estime que l'avenir de l'UE se joue demain. Paris jugerait irréversible un Brexit qui constitue un risque très sérieux, a dit encore le chef de l'État. Chacun s'affole donc, tant le dernier sondage paru dimanche donne les deux camps au coude à coude. Bonsoir Catherine Dutu.
Bonsoir Tara.
Alors vous êtes à Londres pour suivre demain ce vote. Tout à l'heure à Trafalgar Square, Catherine, un dernier hommage a été rendu à Jo Cox. Et on sait que la députée assassinée s'était évidemment montrée avec acharnement contre les arguments des pro-Brexit qui concernent l'immigration, Catherine.
Et ce qui avait d'ailleurs choqué Tara le jour de la mort de Jo Cox, c'était cette affiche dévoilée par Nigel Farage, le leader du UKIP, une affiche où l'on voyait une longue file d'immigrés se déployer à l'horizon, accompagnée de ces mots « breaking point », le point de rupture, nous devons nous libérer de l'Europe et reprendre le contrôle de nos frontières, pouvait-on lire également. Polémique encore vive aujourd'hui, le UKIP a été accusé de faire une propagande nationaliste digne des années 30, propagande qui oublie de dire que le Royaume-Uni contrôle déjà ses frontières car en dehors de l'espace Schengen, il n'empêche l'immigration et la souveraineté. C'est ce qui pousse Marion à voter pour le Brexit. Cette sexagénaire vit en Écosse, dans le comté agricole de Berwick, où des Européens de l'Est viennent parfois travailler comme saisonniers au moment des récoltes. Et ce qui inquiète Marion, c'est la situation générale. 8 millions et demi d'immigrés au Royaume-Uni, deux fois plus qu'en 1990.
Significant cuts since the economic crash in 2008 and particularly since 2010.
Les coupes drastiques opérées depuis la crise économique de 2008 et surtout depuis 2010. Des coupes dans les budgets de l'éducation nationale, de la sécurité sociale. C'est ça les causes principales des tensions qui pèsent sur les services publics.
And I think housing is maybe a slightly more complex.
Pour le logement, c'est un peu plus compliqué. La plupart des immigrés se concentrent dans quelques zones du Royaume-Uni. Si l'on proposait une meilleure répartition, si l'économie britannique n'était pas aussi concentrée sur le sud-est du pays, alors ces questions ne seraient plus une source de tension. Et je précise que les gens à l'origine de ces coupes budgétaires sont les mêmes qui instrumentalisent l'immigration aujourd'hui.
Et là, vous venez en fait d'entendre Robert, 39 ans, un gardien de résidence universitaire à Londres, très engagé dans la campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Un jeune homme donc londonien pour qui ce ne sont pas les immigrés qui font que les services publics sont débordés. Lui, il avançait donc une autre raison pour expliquer la pression subie par les services publics, les écoles et les hôpitaux en particulier. Des arguments auxquels n'adhère pas donc Marion, dont je vous parlais tout à l'heure. Cette sexagénaire qui vit en Écosse.
La Grande-Bretagne ne peut pas supporter de tels chiffres. Tout simplement, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires, les maisons, les écoles, les hôpitaux ou autres. Il faut que nous protégions nos frontières. Je crois que le camp du maintien s'est lui-même tiré vers le bas. Ils nous ont sorti des affirmations scandaleuses comme quoi tout allait s'effondrer, nous repartirions en guerre, mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce genre d'argument qui fait fuir les électeurs.
Well, it's just not true. And things, you know, remarks like that take away from their argument.
L'immigration et la souveraineté au cœur hier encore du dernier duel de campagne entre Sadiq Khan, maire travailliste de Londres, pro-européen, et son prédécesseur, le conservateur Boris Johnson, l'un des leaders du Brexit, qui a dû prendre ses distances hier soir avec l'eurosceptique Nigel Farage afin de convaincre, sans trop effrayer, les 12% d'électeurs toujours indécis selon les sondages.
Merci beaucoup Catherine Dutu, en direct de Londres. Valérie Rabault, donc je disais que vous étiez aussi à l'Assemblée nationale présidente du groupe d'amitié franco-britannique. Êtes-vous inquiète de l'issue de ce sondage, excusez-moi, de ce référendum qui va se tenir demain?
Ce référendum, il s'est tenu sur deux choses. Ceux qui veulent que la Grande-Bretagne reste dans l'Europe ont eu un discours uniquement économique. Ceux qui veulent qu'elle sorte ont eu un discours uniquement sur l'immigration. Et sur ce dernier volet, il est exact que l'Europe n'est pas allée assez loin dans sa capacité à fédérer les États. Mais on voit bien que ce sont deux sujets, ce ne sont pas sur les mêmes sujets que la campagne s'est faite, des deux côtés. L'un, l'immigration, l'autre, l'économie. Et donc, il est indispensable, ça doit être quel que soit le résultat demain, quel que soit le résultat qu'on aura vendredi matin, je souhaite que la mort de Jo Cox soit un déclencheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la question de l'immigration sans réponse au niveau européen.
Et le président François Hollande annonce d'ailleurs qu'il ira à Berlin pour parler d'une sorte de relance de l'Europe après le résultat du référendum demain concernant la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Valérie Rabault d'avoir accepté notre invitation. En bref, encore à l'étranger, un commandant qui dirige les forces irakiennes à Fallujah a affirmé que la ville était quasiment vidée de Daesh. Et puis en Syrie, Bachar al-Assad a nommé un nouveau Premier ministre en pleine guerre. Il s'agit de son ancien ministre de l'électricité qui figure sur la liste noire des personnalités sanctionnée par l'Union européenne. On va s'arrêter maintenant sur le 6e congrès contre la peine de mort qui se tient à Oslo. L'année dernière, les exécutions capitales ont connu un bond de 50% par rapport à 2014. Nadine Epstein, qui est sur place, a rencontré Lubov Kovaleva. Elle est lauréate du prix du défenseur des droits de l'homme pour le soutien actif qu'elle a apporté à son fils Vladislav Kovalev, qui a été exécuté en mars 2012 après un procès expéditif en Biélorussie, procès qui a fait toutefois bouger l'opinion publique.
Il y avait une possibilité pour les gens de voir l'absurdité de ce procès quand les confessions et tous les arguments de mon fils ont été donnés sous les tortures, ça se voyait. Mon fils a été condamné pour le non-signalement à la police de préparation d'un acte terroriste. Alors qu'à cette époque, nous avons une situation économique politique désastreuse dans le pays. Cette explosion a eu lieu à ce moment-là et probablement pour détourner l'attention de la société des problèmes que rencontrait le pays. Mon fils et Dimitri, un autre monsieur, ont été arbitrairement condamné et exécuté. Tout ce qui s'est passé avec moi et mon fils, quand mon fils innocent a été exécuté et condamné pour les crimes qu'il n'a jamais commis, moi j'aimerais que cette horrible histoire ne se répète plus.
Et aujourd'hui, vous êtes devenue une militante contre la peine de mort?
Oui, c'est le destin qui m'a fait prendre cette place. La société n'a pas accepté le verdict qui a été donné à mon fils par le Cour suprême. Les gens ont compris le système et comment ça fonctionne, le judiciaire dans notre pays, comment c'est injuste. Et 70% au moment du procès se sont prononcés à l'époque contre la peine de mort. Malheureusement, après, ça a rechuté parce que c'était plus les mêmes affaires après, mais je pense que ça a marqué. Et je pense que beaucoup de gens sont pour l'abolition de la peine de mort.
Aujourd'hui, il reste beaucoup de condamnés à mort dans les couloirs de la mort en Biélorussie.
Il y a 4 personnes qui sont toujours dans les couloirs de la mort.
C'était donc un reportage signé à Oslo, Nadine Epstein. Voilà, on va terminer ce journal avec un petit mot de la météo qui sera relativement court parce que demain, il va y avoir des orages, dit-on, dans le Nord-Ouest qui est classé ce soir en vigilance orange. 12 départements encore. Demain, des orages toujours, une dégradation générale sur l'ensemble du pays. Il faudra attendre le retour du soleil, sans doute samedi seulement.